Sam, je peux te demander de prier pour introduire ce moment? Merci.
Entièrement par grâce de ta part, par amour pour nous, que tu nous as sauvés, tu nous as fait devenir tes enfants, et donc ensemble tu nous as mis. Seigneur, veuille ouvrir nos oreilles pour qu'on puisse recevoir de toi aujourd'hui et être enseigné par toi. Amen.
Amen. Alors, ce matin, pendant ce culte, on a beaucoup entendu parler de l'amour de Dieu et de l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Et je vais continuer à parler d'amour un peu différemment. Vous vous souvenez, les plus anciens, en tout cas, je pense, de Mission Impossible, le feuilleton des années 60. Bon, les plus jeunes, il y a eu des films qui ont été tirés du feuilleton, vous devez le connaître aussi. Alors, une mission impossible. Aimer tes ennemis, prier pour ceux qui te persécutent, voilà ta mission. Ce papyrus va se détruire dans 5 secondes. Bonne chance. Faut que je parle plus fort ou plus près. Alors, on va lire dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Alors le verset 1, déjà, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et puis on saute et on va au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père est parfait. Aimez vos ennemis. C'est une phrase simple, facile à comprendre. Certainement beaucoup, beaucoup moins facile à mettre en œuvre. Et puis c'est aussi une phrase qui heurte beaucoup, même, je crois, parmi les chrétiens. De plus, une grande part de nos psychanalystes reprochent ce principe pour plusieurs raisons, deux en particulier. La première, c'est que cet amour imposé empêche toute expression d'opposition. Elle empêche l'antagonisme nécessaire pour l'épanouissement de la personne. Un exemple, l'adolescent a besoin de s'opposer à ses parents pour se construire et affirmer sa personnalité. Les époux aussi peuvent parfois avoir besoin de moments d'affrontement sereins pour trouver la voie juste de leur couple. Puis la seconde raison, c'est que ce serait impossible à vivre, et qu'imposer une impossibilité conduit à un déchirement intérieur. Et cette tension, loin de créer une dynamique salutaire, impose une culpabilité, et ça nous empêche de trouver un équilibre. Alors notre réflexion nous montrera peut-être en quoi ces reproches sont ou non justifiés, sont ou non fondés. On va chercher à proposer un sens possible pour cette phrase, bien sûr, en vue de la mettre en pratique. Alors pour ça, voyons un peu cette phrase. Elle est simple, trois mots. Aimez vos ennemis. Or, du point de vue grammatical, je ne suis pas un grand spécialiste là-dedans, mais quand même, c'est vraiment la phrase minimum. un verbe, un complément d'objet direct, comme j'apprenais à l'école, hein, maintenant on dit autrement, je crois. Le verbe est au mode impératif. Et ça m'a étonné. Pour ce genre de situation, j'aurais attendu plutôt quelque chose de plus conditionnel. Si tu as des ennemis, aime-les. Si par hasard j'avais eu des ennemis, il lui fallut que je les aimasse. Bon. Mais la loi emploie souvent ce type de forme conditionnelle. Je vais juste citer un verset, Lévitique 20, verset 10. Quand un homme commet un adultère avec la femme de son prochain, ils seront mis à mort. Et là, on sait quand le législateur demande la mise à mort. Mais dans notre texte à nous, Jésus a édicté une loi qui précise, et il n'a pas édicté une loi qui précise son domaine d'application. C'est une maxime inconditionnelle, valable en tout lieu, en tout temps. Aimez vos ennemis. Alors pour aimer ses ennemis, il faut au moins deux choses. Aimer, savoir aimer donc, et puis avoir des ennemis. Et pour Jésus, il est évident que nous avons des ennemis. La difficulté n'est pas d'avoir des ennemis, mais c'est de les aimer. Pour Paul, être disciple de Jésus, suivre le Maître qui nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », conduit nécessairement à avoir des ennemis. Il dit à Timothée « Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés ». Suivre la vérité fait surgir les ennemis autour de nous. Des ennemis qu'il nous faut aimer. Et si on regarde un peu la vie de Jésus, il n'a pas été sans ennemis. Les pharisiens et les scribes, qu'il critiquait sans cesse, et qui tentaient, lui, régulièrement de le piéger. Les marchands qu'il voulait bouter hors du temple, les chefs politiques qui craignaient les mouvements de la foule, et avec ses ennemis, Jésus n'a pas été tendre. Alors dans cette phrase, il y a « ennemi ». Or peut-être que la Bible exagère un peu, « ennemi » est un terme si fort. Est-ce que ça ne serait pas par hasard une emphase orientale ? Jésus a prononcé ces mots en araméen. L'araméen, c'était une langue dont le vocabulaire n'était pas très riche. Et il n'entendait peut-être pas par ce mot l'opposition radicale que, pour nous, suggère « ennemi ». Et en effet, je pense que d'autres traductions du grec sont possibles, mais sont-elles souhaitables ? Faut-il gommer cette dureté dérangeante pour nous ? Alors j'ai regardé mon traducteur du grec biblique. Il m'a indiqué pour ennemi odieux, haïssant, haïssable, opposant, hostile. Et puis si on regarde ennemi sur Internet, les synonymes, on voit rival, adversaire, concurrent, contradicteur, antagoniste, opposant, hostile, odieux, haïssable. Alors reprenons un peu ces propositions-là pour savoir qui est mon ennemi et qui me considère comme son ennemi. Alors d'abord antagoniste. Antagoniste, ça désigne tous ceux contre qui j'ai une dent et qui ont une dent contre moi, parce qu'ils ne pensent pas ou n'agissent pas comme moi. Concurrent. Quand on est dans la vie active, nos concurrents sont ceux de l'autre boîte qui fabriquent la même chose que nous. Ça peut être aussi, dans l'entreprise, des collègues de travail qui sont concurrents pour une promotion ou une augmentation. Est-ce qu'on peut avoir des concurrents dans l'Église ? C'est juste une question. Contradicteur. Contradicteur, c'est celui qui s'oppose à mes idées, à mes projets, à ce que je désire. Haïssable. Pascal disait « le moi est haïssable ». Notre ennemi le plus proche, c'est peut-être parfois nous-mêmes. Donc on se reproche de ne pas être à la hauteur de la situation, de ne pas avoir réussi à défendre notre point de vue, de ne pas avoir su faire ceci ou cela. Quand on se reproche peut-être de vieillir aussi. Et Paul Valéry en tirait une conclusion logique. Il disait, si le moi est haïssable, aimer son prochain comme soi-même devient une atroce ironie. Hostile. Qui est hostile? Or, hostile, c'est peut-être l'appréciation la plus aimable qu'a le directeur des relations soi-disant humaines quand le délégué syndical vient lui présenter les revendications des salariés. Odieux. Odieux, c'est ce que je pense, moi, du fumeur qui m'impose sa fumée et le risque d'un cancer passif. Opposant. Opposant. On pense tout de suite à la politique, non ? L'opposition entre la majorité et la minorité. Alors, dans notre belle démocratie apaisée, comme vous la connaissez, on voit des débats pleins d'agressions verbales, pleins de sous-entendus qui ne respectent ni l'opposant, ni ses idées. Et puis, rival. Rival, c'est un terme qu'on emploie souvent dans les relations amoureuses, ou plus exactement dans les relations qui ont été amoureuses et qui ne le sont plus. Puis, comme synonyme d'ennemi, volontairement, je n'ai pas utilisé le mot adversaire. C'est pourtant un mot commun. L'adversaire peut désigner le boxeur sur un ring, et ce mot implique un vis-à-vis. Celui qui est proche, qui me fait face, peut-être que je vais pouvoir le connaître et voire même l'aimer. Mais je n'ai pas utilisé ce mot adversaire parce qu'adversaire désigne aussi celui, vous savez, celui qui a accusé Job auprès de Dieu. Il l'accusait uniquement pour voir si Job continuerait à reconnaître Dieu comme la source de la bonté et de l'amour pour le monde. Et puis cet adversaire-là, c'est aussi notre accusateur. Apocalypse 12. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Alors cet adversaire-là, Satan, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de l'aimer. Mais comme Dieu ne nous demande pas l'impossible, on va rejeter le mot adversaire, rester au mot ennemi, celui qu'il est déjà si difficile pour nous d'aimer. Alors dans notre phrase, aimez vos ennemis. Je vais peut-être partir à l'envers, en commençant par ennemis, parce que juste avant, il y a vos ennemis, vos. Alors l'adjectif « vos » explicite celui de qui on parle. Ce n'est pas un adjectif, c'est quoi? Un pronom. D'accord. Il ne faut pas aimer les ennemis de façon générale, ni même les ennemis du genre humain. C'est une abstraction, ça commune, commode et bien impersonnelle. Jésus dit « il faut aimer ses ennemis ». Les siens. Et alors là, il importe peut-être de savoir à qui Jésus s'adresse quand il dit ça. Et si on regarde bien, Jésus ne s'adresse pas au petit groupe d'apôtres, ni même aux disciples qu'il suivait. Il parle à la foule, la grande foule anonyme, pas seulement aux croyants israélites, mais aussi aux païens qui l'écoutaient par hasard. C'est ce que nous dit Luc pour le même texte. Alors donc, nous nous disions membres de l'Église, croyants tièdes ou auditeurs occasionnels, On est tous sous le coup de cet ordre de Jésus. Le fait que Jésus s'adresse à tous les humains, au-delà du cercle religieux, veut sans doute nous dire que cet impératif n'est pas de l'ordre de la relation avec Dieu, mais de l'ordre de la nécessité pour vivre comme homme et femme dans une relation harmonieuse entre humains sur cette terre. Mais si le commandement d'aimer ses ennemis s'impose à tous, ça ne le rend pas plus facile. Aimez vos ennemis. Que veut dire aimer ? J'aime parler politique. Tu aimes ton conjoint ou ta conjointe. Il aime la confiture. Nous aimons nos enfants. Vous aimez Dieu. Ils aiment la musique. Tout cela est aimé. Est-ce le même amour ? Autrement dit, le mot amour est-il pertinent ? Pour un adolescent à qui on parle d'aimer Dieu, d'aimer ses parents, d'aimer son prochain, d'aimer sa copine, peut-être aussi de s'aimer soi-même, le mot aimer a-t-il le même sens ? Alors je vais exprimer ici le questionnement des jeunes garçons. Faute du vécu, je ne sais pas grand-chose de celui des filles. Nos adolescents tout boutonneux qui découvrent avec angoisse peut-être qu'ils ont une sexualité, qu'ils sont équipés pour faire l'amour, donc pour aimer, même s'ils ne savent pas s'exprimer sur la question, ou surtout s'ils n'osent pas, pour eux aimer, c'est d'abord un point de vue technique. Ensuite, une inclinaison amoureuse. C'est incompatible avec la relation avec ses parents, ses prochains, ses ennemis. On leur parle d'aimer leurs prochains alors qu'ils se demandent comment aimer une fille. Quel mélange. Et pour eux, c'est dur de comprendre. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque, même si elle est un peu loin ? Aimer, c'est une notion difficile puisqu'elle touche l'affectif, le fond de nous-mêmes. Alors, je vais peut-être vous choquer, là. Est-ce qu'on ne devrait pas admettre que les enfants n'ont pas forcément à aimer leurs parents ? D'abord parce qu'ils ne les ont pas choisis. Aimer ce qu'on n'a pas choisi, c'est pas humain. C'est peut-être même pas biblique. Ce qui est certainement beaucoup plus biblique, c'est qu'on doit respecter nos parents. C'est-à-dire les remercier d'avoir été dans la chaîne des vivants, ceux qui nous ont permis d'exister. Il nous est écrit qu'il faut les honorer. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honorer ses parents, c'est reconnaître qu'ils ont du poids, que leur éducation nous a permis de vivre dans un monde humain, que ce soit en agissant selon leurs conseils ou en prenant une autre voie, nous agissons toujours marqués par notre famille, par l'histoire de notre famille. Par contre, comme parent, j'ai à aimer mes enfants, car j'ai choisi de conduire un projet parental, d'avoir et d'éduquer des enfants. On ne peut aimer que ceux que l'on choisit. Bon, là je crois que je divague un peu par rapport au sujet. On va y revenir. Aimer son ennemi, ce n'est pas tant, ou ce n'est même en aucun cas d'avoir de l'affection pour lui. Sauf exception, je ne choisis pas d'avoir un ennemi. Je subis plutôt une relation d'hostilité, et donc je n'ai pas à avoir de l'affection pour l'ennemi, celui qui m'est imposé. Mais alors, si le commandement d'aimer ce n'est pas aimer, de quoi s'agit-il? Alors on va revenir un peu au grec. Il y a trois substantifs, et là, je suis fort, substantif. Pour amour, quand dans le français on n'en utilise qu'un. Alors je vais vous les rappeler rapidement, vous les connaissez. Philéo, c'est l'affection qui accourt entre amis. La vénération du disciple pour son maître. L'amitié entre camarades d'enfance. L'appréciation d'une idée. C'est l'amour qui fait intervenir notre affectif, nos sentiments. Eros, vous connaissez tous Eros. C'est l'amour traduit en relation physique entre un homme et une femme. Encore que de nos jours, c'est pas si sûr. Mais aimer les ennemis comme aimer son prochain, ce n'est ni philéo ni eros, c'est agapé. Ce mot qui est tellement important et tellement utilisé dans le Nouveau Testament, et pourtant si difficile à traduire. Agapé, ce n'est pas avoir de l'affection, éprouver de la tendresse, faire une bise le matin, ni même avoir plaisir à voir l'autre, le prochain, voir l'ennemi. Agapé, c'est d'abord respecter l'autre comme personne. On connaît tous la distinction entre l'être et le faire. On dit détester l'agir sans haïr la personne. Mais est-ce facile de distinguer la voiture qui roule à 150 sur le périph' et qui vous a fait une queue de poisson du conducteur qu'on voit à peine dans le pare-brise, là, par l'arrière? Est-ce possible seulement? Agapé, ce n'est pas être en accord avec son ennemi. J'ai le droit de désapprouver tel comportement, de détester telle position qu'il a prise. Aimer son prochain, son ennemi, c'est pas faire ami-ami avec lui. Considérer que toutes les opinions sont possibles et se valent. Mais agapé, c'est vouloir lui laisser une place dans l'espace public. C'est faire en sorte que le fumeur puisse s'adonner à son plaisir sans être mouillé par la pluie. D'abord à l'écart pour ne pas risquer de nuire, mais aussi à l'abri pour ne pas qu'il prenne une grippe. Agapé, c'est être solidaire de son ennemi. Non pas solidaire de ses idées que nous n'approuvons pas, mais solidaire du fait qu'il est un être humain, fait de certitudes, acceptables ou condamnables, pétri d'espérances, bonnes ou mauvaises. Dans notre vocabulaire chrétien, c'est accepter qu'il soit une créature faite à l'image de Dieu, mais soumise au péché. Savoir aimer son ennemi, c'est vouloir discerner du bon en lui, même chez Hitler ou chez Pol Pot. S'aimer soi-même, c'est respecter la sincérité de ses propres convictions. C'est aussi se reconnaître le droit de combattre les idées et les propositions que nous n'approuvons pas. Voltaire disait « Je combattrai toujours vos idées, monsieur, mais je me ferai tuer pour que vous ayez le droit de les exprimer. » Alors au fond de moi, est-ce réellement ce que je souhaite que mon ennemi raciste puisse s'exprimer en public? Refuser la parole au contradicteur, à l'opposant, donc le traiter en ennemi, n'est-ce pas me donner la possibilité de rester tranquille dans un petit nid douillet? Il me semble que aimer son ennemi, c'est tout ce que Jésus de Nazareth, nous demande dans l'Évangile. La nouveauté radicale de Jésus par rapport aux sages qui l'ont précédé ou qui lui ont succédé, et il me semble qu'il prône une solidarité égale envers les prochains et les ennemis, particulièrement avec nos proches ennemis. Alors, un autre point de vue. Ce mot agapé, que nous venons de voir dans nos relations entre humains, c'est aussi celui qui est utilisé dans les relations entre l'homme et Dieu. De l'homme vers Dieu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et de Dieu vers l'homme, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Alors j'ai proposé comme synonyme possible d'agapé, solidarité. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Dieu s'est montré solidaire de notre condition d'homme et de femme? L'incarnation de Dieu dans notre humanité est l'affirmation de la solidarité de notre Créateur pour notre limitation d'homme mortel et pécheur. Pourtant, notre Dieu a souvent de quoi être agacé par notre comportement, par nos guerres, nos génocides, par notre absence de volonté de donner à manger à tous les hommes, mais aussi, plus bêtement, par le feu rouge grillé, même si c'est pour arriver à l'heure au filtre. Malgré notre état de pécheur que nous reconnaissons bien volontiers, Dieu pratique l'agapé envers nous. C'est ce que l'Évangile désigne par le salut offert gratuitement à tous et à toutes. Chacun est un être aimé de Dieu, de qui Dieu s'est montré solidaire, quel que soit son rapport avec lui, qu'il se dise son ami ou son ennemi. Muriel, ce matin, nous a lu un verset dans Romains, et le verset suivant, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Alors, aimer ses ennemis, est-ce possible? Si on considère qu'aimer, que cet amour-là, en tout cas, n'a pas de lien avec l'affectif, mais plutôt avec la volonté, alors aimer ses ennemis, c'est peut-être difficile, mais c'est certainement possible. Et là, je ne vais pas vous donner une recette miracle pour aimer vos ennemis. Cependant, Jésus nous la suggère. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors si on commence à prier pour ceux qu'on considère comme nos ennemis, nos opposants, nos concurrents, alors en tout cas il devient possible de ne pas les haïr. Bénissons-les. Littéralement, disons du bien d'eux. Pas facile non plus. Mais n'y a-t-il pas quand même quelque chose de bon dans chaque humain fait à l'image de Dieu? Jacques nous donne ce conseil. Par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissions les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Puis qu'est-ce que nous dit Jésus? Faisons du bien à notre ennemi. Alors ça, c'est peut-être difficile. Mais c'est notre plus sûre défense. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Laissons notre Père s'occuper de nos ennemis. C'est lui qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors en guise de conclusion, frères et sœurs, savons-nous ou saurons-nous vivre en chrétien suffisamment exigeant envers nous-mêmes et envers les autres pour avoir des ennemis? Savons-nous ou saurons-nous reconnaître que nous nous comportons parfois en ennemis les uns vis-à-vis des autres? Savons-nous ou saurons-nous manifester une solidarité envers nos ennemis sans rechercher leur affection? Savons-nous ou saurons-nous combattre les idées de ceux qui sont nos ennemis, idées qui nous semblent contraires à la bonne manière de vivre la présence de Dieu dans notre humanité? Savons-nous ou saurons-nous prendre le temps pour convaincre nos ennemis qu'ils sont respectables, respectés par Dieu, mais néanmoins dans l'erreur? Or que Dieu nous aime, nous aide à mener à bien cette mission impossible.